Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, noir et blanc, couleur, comme vous voulez, muet, comme vous voulez. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons picorer dans la filmographie relativement abondante consacrée au chevalier de la table ronde, à la légende des chevaliers de la table ronde, puisqu'il est pratiquement établi que ni le roi Arthur, ni Lancelot, ni Guenièvre, ni Merlin, ni Morgane, ni Mordred, etc., tous ces gens-là n'ont jamais existé historiquement, mais qu'il s'agit d'un mythe littéraire forgé évidemment à partir d'une histoire plus ou moins vraie, en tout cas, qu'importe, comme disait l'autre. L'histoire elle-même, la légende est plus belle, et donc elle a largement inspiré les cinéastes. Dès le cinéma muet, on trouvait déjà des adaptations sinon de la légende proprement dite, du moins, et par exemple d'un roman de Mark Twain qui s'intitulait Un Yankee à la cour du roi Arthur et qui, comme son titre l'indiquait, eh bien, voyait un Américain bien contemporain débarquer à la cour du roi Arthur. On va commencer avec quelque chose de beaucoup plus classique, un film de Richard Thorpe tourné en 1954. C'était le premier film en cinémascope de la MGM, autant dire une grosse production. Ça s'appelle Les Chevaliers de la Table Ronde. On retrouve dans les rôles principaux Robert Taylor dans le rôle de Lancelot, Ava Gardner dans le rôle de Guenièvre et Mel Ferrer dans le rôle du roi Arthur. Le tout, je l'ai déjà dit, est très très classique, mais ma foi, on peut aimer ce genre de film en costume. Robert Taylor, quant à lui, les détestait. Lui-même était d'ailleurs un personnage assez détestable. Par contre, et c'est bien ça l'intérêt des 24 notes secondes, la musique, elle est signée du grand Miklos Rossa au meilleur de sa forme. Donc on en écoute un extrait, Les Chevaliers de la Table Ronde dans 24 notes secondes. We'll be right back. Le symphonisme très caractéristique de Miklos Rossa pour un extrait de la bande originale des Chevaliers de la Table Ronde, un film de Richard Thorpe avec Robert Taylor dans le rôle de Lancelot. Alors c'est soi-disant inspiré de La Mortée d'Arthur de Sir Thomas Malory, l'un des premiers écrivains à avoir porté la légende Chevalier de la Table Ronde sur la place. Mais dans ce film de Richard Thorpe, eh bien, il n'est question ni de la quête du Graal, qui a priori est quand même la raison principale pour laquelle les chevaliers se retournent autour de la Table Ronde, ni d'Excalibur, la fameuse épée qui permet de reconnaître dans le roi Arthur, eh bien, le roi, puisque c'est son père, en l'espèce Pendragon qu'il y a planté dans le rocher, et seul lui peut la sortir. Toute chose qu'on va retrouver dans une autre adaptation, beaucoup plus roots de la chose, un film de John Boorman, tourné en 1981, et qui s'appelait justement Excalibur. Alors, il est assez remarquable de constater que l'inspiration de John Boorman, eh bien, se situe plutôt du côté des Seigneurs des Anneaux que de la légende telle que rapportée par Thomas Malory, Chrétien de Troyes et quelques autres. Ma foi, le film connu à l'époque un très très gros succès. Il faut dire qu'il était tout à fait étonnant visuellement, assez sanglant dans mon souvenir, mais en tout cas très étonnant visuellement, tourné en Irlande, presque dans les territoires où est censée se passer la légende, en tout cas dans les territoires de John Boorman lui-même, réalisateur irlandais bien connu. Les interprètes n'étaient pas et ne sont toujours pas vraiment connus. Il y a quand même Hélène Mirren qui jouait la Morgane, mais pour tous les autres, ma foi, ils n'ont pas fait une grande carrière, l'intérêt n'était pas là. Il y avait même Liam Neeson dans le rôle de Gauvin. Voilà, je suis ma petite fiche, tiens, je ne le savais pas ça. Il faut dire qu'on ne voit pas beaucoup Gauvin dans le film. Mais en tout cas, le résultat fut très très couru. Alors la bande originale du film, elle est signée de Trevor Jones, mais on va écouter autre chose, puisque pour cette bande originale, John Boorman utilisa un extrait qu'on avait déjà beaucoup utilisé avant lui, mais qu'après lui, on utilisa partout pour faire de la pub pour les couches culottes, les protections féminines, tout ce que vous voulez. Les Carmina Burana du fameux Karl Hoff, en l'espèce interprété par la Wiener Sing Academy, Excalibur dans 24 notes, seconde. Un un extrait de la bande originale, même s'il ne s'agit pas d'une musique composée originalement pour le film d'Excalibur, un film de John Boorman tourné en 1981. Ce sont évidemment, les Carbina Burana de Karl Hoff, interprétés en l'espèce par le Wiener Sing Academy, un morceau connu, reconnu, très connu. On va rester avec le roi Arthur, mais on va retrouver la vraie musique de film pour un film intitulé justement Le roi Arthur tout court, en français Le roi Arthur, la légende d'Excalibur, puisque là encore Excalibur tient une grande place dans ce film de Guy Ritchie sorti en 2017. Alors Le roi Arthur est interprété par Charlie Hunnam. C'est pas une version, je dirais, très conforme au mythe littéraire, puisque le roi Arthur a été élevé dans un bordel par des prostituées. Il est vrai qu'à sa naissance, il avait été enlevé par Merlin. Mais de Merlin, ici, il n'est plus question. En tout cas, Merlin est remplacé par une magicienne, un côté un peu air du temps, très propre à Guy Ritchie, à la fois dans le scénario et la façon dont on reconvertit, dont on modernise pour le faire correspondre à des préoccupations plus contemporaines et bien des vrais mythes littéraires issus quasiment de la fin du temps. Aux côtés de Charlie Hunnam, et peut-être c'est le mieux du film, il y a Jude Law dans le rôle du méchant. Alors là, il est très bon dans le rôle du méchant, mais le méchant, c'est pas Mordred, on ne sait pas vraiment qui c'est. Un film qui aura coûté près de 250 millions de dollars, mais qui fut, alors, bide, échec, c'est même un peu en dessous de la vérité. Bref, ce fut une catastrophe financière, commerciale, critique absolument totale pour Guy Ritchie. Bon, l'homme a eu plusieurs vies, il a rebondi. Pour Charlie Hunnam, c'est un peu moins sûr, puisque ça devait être le premier d'une série de 6 films. Autant dire qu'après un tel échec, eh bien, il n'est plus question d'avoir 5 autres films. C'est un peu injuste, il faut le reconnaître, car le film est plutôt plaisant à regarder. Il y a justement cette distance ironique par rapport au mythe du roi Arthur qui est plaisante. Mais c'est quand même un peu foutraque et un peu, comment dire, on ne comprend pas très bien où ça veut en venir. La seule bonne chose du film, et vous l'aurez déjà deviné, c'est sa bande originale. Elle est signée du formidable Daniel Pemberton, qu'on a déjà évoqué sur les ondes de 24 notes secondes. On écoute un extrait de sa partition, Le roi Arthur, dans 24 notes secondes. Ah ben, il n'y a pas à dire avec Daniel Pemberton, ça pousse, ça pulse, c'est ça que je voulais dire, mais ça pousse aussi. Un extrait de la bande originale du Roi Arthur, un film de Guy Ritchie sorti en 2017, qui fut un succès commercial assez notoire. Alors, il n'y a pas que les anglo-saxons qui se sont attaqués au mythe des chevaliers de table ronde. Nous aussi, on n'y a pas coupé. Déjà, j'ai évoqué tout à l'heure très très brièvement, je reconnais, Chrétien de Troyes, qui fut déjà un des premiers vulgarisateurs au Moyen-Âge de cette histoire. J'aurais pu vous passer un extrait de la bande originale signée Philippe Sard, du Lancelot du Lac de Robert Bresson, mais je ne l'ai pas trouvé, ou, là ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué, du Perceval le Gallois d'Éric Rohmer, tourné en 1978 et qui voyait Fabrice Luchini lui-même dans le rôle de Perceval, dont je vous rappelle qu'il est le seul à avoir le Graal pendant la quête des Chevaliers de la Table Ronde. Mais évidemment, j'aurais pas pu faire une émission sur les Chevaliers de la Table Ronde sans parler de la formidable série d'Alexandre Astier et du film K.A. Melott. Évidemment, on va écouter un extrait de la bande originale, non pas de la série télévisée qui a connu je ne sais plus combien de saisons, mais du premier volet de K.A. Melott, le film sorti en 2021, une période plutôt contrastée, Covid aidant, mais qui permit quand même au film de rencontrer un gros succès commercial à l'image, je dirais, de l'aspect culte que connaît maintenant cette série diffusée et rediffusée. Il faut dire qu'Alexandre Astier est un génie, il faut bien le dire, et qu'il a su restituer parfaitement avec un humour qui n'appartient qu'à lui, mais une grande fidélité, en fait, aussi étonnant que ça l'apparaisse, à l'histoire et aux personnages historiques. Il a vraiment une connaissance très fine de la légende des Chevaliers de la Table Ronde. Alors c'est sûr que le malheureux Perceval, tel que je l'ai évoqué, peut-être un peu, je dirais, caricaturé, que d'autres sont beaucoup plus mis en valeur dans les romans de Chrétien de Troyes qu'ils ne le sont à l'écran. Mais un, c'est très très drôle. Deux, c'est très très bien fait. Trois, les acteurs sont tous excellents. Il y a la dynastie Astier, et notamment son père dans le rôle de Léo Dagan de Carmélide, un des alliés, entre guillemets, de Arthur Pendragon, le roi de Bretagne, incarné évidemment, tout seigneur, tout honneur, par Alexandre Astier. Bref, le résultat est très réussi. Le film aussi est très réussi, et cerise sur le gâteau, la musique du film est très réussie puisqu'elle est aussi signée d'Alexandre Astier. Quand je vous dis que ce tome est un génie, lui-même reconnaît s'être inspiré, excusez du peu, de John Williams ou d'Howard Shore pour composer sa bande originale. Évidemment, comme il s'agissait d'un film de cinéma, il avait une plus grande ampleur que dans les, je dirais, les petits sketchs sur une dizaine de minutes dans lesquels il y avait déjà de la musique. On en écoute un extrait après tant de dithyrambes pour vous en laisser juge. Camelot, premier volet, 24 secondes. Thank you. Un bel extrait, ma foi, de la partition de Kaamelott, premier volet, un film d'Alexandre Astier, une musique signée aussi d'Alexandre Astier. Il faut dire qu'Alexandre Astier, c'est un musicologue averti. Ceux qui ont vu son one-man show consacré à Jean-Sébastien Bach, j'en suis, s'en souviendront peut-être. C'était Jean-Sébastien Bach qui expliquait à des incultes comme nous les raffinements de la musique. C'était déjà super drôle. Donc un extrait de la bande originale de ce film déjà culte, tout comme l'était la série. Et dans le film, on retrouve évidemment les mêmes acteurs que dans la série, avec quelques autres, à mon avis, qu'on voyait très peu dans la série, comme Sting, Christian Clavier, Antoine Decaune. J'avoue que ma préférence va toujours au couple d'enfer formé par Alain Chabat et Géraldine Nakache dans le rôle du duc et de la duchesse d'Aquitaine. À chaque fois que je vois ça, je suis écroulé, mais je sais que je ne suis pas le seul. Donc maintenant, on attend le deuxième volet. Allez Alexandre, il faut y aller maintenant. Le Covid est derrière nous. Enfin, quoique. Allez, on va se quitter avec un extrait d'une dernière bande originale consacrée au mythe du roi Arthur. Rien à voir avec tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Enfin, presque. Un extrait de la bande originale de First Knight in English, Lancelot, le premier chevalier en français, ce qui donne un peu la part belle à Lancelot, qui était interprété dans ce film de Jerry Zucker par Richard Gere. Peut-être le miscasting le plus grandiose de tous les temps, puisque Richard Gere était déjà beaucoup trop empâté, il faut bien le dire, pour jouer le rôle du tourmenté Lancelot. À ses côtés, il y avait la délicieuse Guenièvre, incarnée par Julia Ormond, qu'on n'a pas beaucoup revue. Et évidemment, il y avait quelqu'un qui écrasait tout sur son passage, c'était Sean Connery dans le rôle du roi Arthur. Alors là, par contre, c'était le choix magique, Sean Connery dans le rôle du roi Arthur. Le film n'était pas vraiment convaincant, reconstitué en studio, avec beaucoup de... je dirais de scrupules, mais c'était un peu lourd et un peu répétitif. Il faut dire que Jerry Zucker, il est plus connu pour avoir tourné la série des Y a-t-il un pilote qu'un film historique consacré à une légende moyenâgeuse. Et lui-même reconnaissait sur la pochette de la bande originale que la musique aurait dû obtenir l'Oscar, mais que l'insuccès du film fit qu'elle ne l'obtint pas. Il faut dire que la musique, c'était ce que le film avait de meilleur, tout simplement parce qu'elle a été signée de Jerry Goldsmith une fois de plus. Et on va se quitter en écoutant un large extrait qui va vous rappeler un peu les Carmina Burana, je le reconnais d'avance, de cette bande originale. Comme Jerry, on ne parle pas. C'est maintenant que je vous dis au revoir, à bientôt, see you, bye bye.